Bonjour, ici Jean-Philippe Trottier qui vous souhaite la bienvenue. Je m'entretiens avec François Méhul-Deschênes, consultant et chargé de cours en communication à l'Université Saint-Paul, également formé en histoire. Il évoque la connexion Internet chez les aînés. Il se trouve que la crise sanitaire leur a permis d'accroître leur familiarité avec les technologies des communications. Mais tout d'abord, Serge Cazelet, bibliste et historien des religions, nous parle du jugement de la Cour supérieure qui donne raison aux Juifs racidimes d'Outremont. Ils pourront prier jusqu'à un maximum de 10 personnes par salle de culte et non par édifice. Un jugement administratif qui ne porte donc pas sur la liberté de religion et qui n'empêche pas le gouvernement de restreindre ultérieurement la notion de lieu de culte à une seule adresse. Bonjour Serge.
Bonjour Jean-Philippe.
C'est toujours des questions qui soulèvent un peu les passions à droite et à gauche. Là, la juge Chantal Massé a donné raison donc à des juifs chassidim d'Outremont, hein.
Oui, alors, d'entrée de jeu, comme vous l'avez précisé en introduction, il faut bien dire qu'il s'agit là d'une décision qui est avant tout administrative. La juge l'a bien précisé que, malgré le fait que les représentants de la communauté hassidim et leurs avocats parlaient ou évoquaient la question de la liberté de religion qui est garantie par la Charte canadienne des droits, sa décision ne relève pas de cette question. C'est plutôt une décision ou un jugement qui a voulu éclaircir, qui a mis le doigt sur quelque chose, sur le fait que la notion de lieu de culte dans l'arrêté ministériel du 21 janvier dernier, qui limitait à 10 le nombre de personnes présentes dans un lieu de culte, ben, cette définition-là de lieu de culte n'était pas claire. Alors, on renvoie jusqu'à un certain point le législateur à ses devoirs et, entre-temps, ben, on permet à toutes les communautés religieuses. Donc, oui, c'était les Juifs hassidim qui ont fait cette représentation-là en cours, mais on permet ici à toutes les communautés religieuses, à toutes les communautés de foi, de se réunir à plus de 10 dans un même édifice, à condition qu'il y ait des portes, hein, qu'il y ait des locaux qui soient desservis par des portes ou par des accès indépendants à la rue, sans partager d'espace commun avec les autres salles.
Mais pardonnez-moi Serge, mais comment est-ce qu'on va vérifier ça? Est-ce que les policiers vont entrer dans les synagogues, les églises et les mosquées pour voir que c'est bien cloisonné? Ça va être absolument... Je comprends cette précision bienvenue en même temps, mais d'un autre côté, on ne peut quand même pas installer des caméras dans chaque lieu de culte, enfin dans chaque salle d'un lieu de culte, parce que là, ça devient absolument... on coupe les cheveux en quatre.
Même jusqu'à un certain point, j'oserais dire que ça peut relever d'un certain vaudeville, parce que...
Oui!
Oui, ben, on s'imagine hein, le théâtre vaudeville, une porte qui s'ouvre, une autre qui s'ouvre, une porte qui ferme, les gens entrent par une porte, sortent par une autre. J'imaginerais la même situation, par exemple, on dirait ben, dans les travaux à Lyon, ouais. Les gens peuvent se réunir à condition qu'il y ait des portes et des accès. Mais dans les travaux, il y a des portes et des accès partout. oui, effectivement, c'est d'un côté, oui, on vient permettre aux groupes religieux de se réunir dans des salles différentes. Je peux penser, par exemple, à une paroisse. Ben, il y a une porte au presbytère. Il y a une porte de côté qui mène à une salle au sous-sol. Il y a une autre porte en arrière qui peut mener à la sacristie ou à une petite chapelle. J'ai vu ça dans des paroisses, au temps où j'étais animateur de pastoral. Certaines églises de l'Est de l'Ontario, oui, il y avait une chapelle en arrière avec sa porte séparée. On pouvait fermer une porte. Il y avait une autre salle au sous-sol. Même dans le sous-sol, parfois, il y avait deux salles. Il y avait une sacristie en arrière, puis il y avait l'église principale avec l'autel. Alors, oui, on peut imaginer que des gens qui se réunissent 10 ici, 10 là.
Rien ne garantit qu'ils ne vont pas se serrer la main ou qu'ils ne vont pas s'embrasser. Enfin.
Mais c'est ça. Alors, en même temps, ben, ça met une charge de plus aux policiers qui vont avoir à répondre à des dénonciations souvent anonymes.
Évidemment.
Oui. Comme ben c'est ça. Donc, les dénonciations anonymes, quelqu'un téléphone à la police et dit « Oui, j'ai vu des gens entrer dans ce bâtiment-là. » Puis finalement, la police arrive, puis ben, il y a des portes séparées, puis il y a des salles distincts qui sont séparés. Donc les gens.
Il y a des portes tournantes aussi. Est-ce qu'une porte tournante est une porte? Ça, c'est une autre question qu'on pourrait soumettre.
Il faudrait demander aux législateurs de définir ce qu'est
c'est qu'une porte tournante. Serge Cazelet, on rit, mais bon, là, c'est quand même une question sérieuse parce qu'on parle de... Il y a un besoin fondamental pour les croyants d'aller prier et on prie en communauté. Il s'agit de faire la part des choses entre les mesures de sécurité, enfin la santé publique en fait, et ce besoin fondamental de certains croyants. Mais c'est intéressant parce que la cause gagnée par les chassidim d'Outremont rejaillit sur toutes les autres religions qui peuvent. J'ai vu des messages de bravo de religieux, quelle que soit la religion, qui disent bravo, nos frères aînés dans la foi nous ont ouvert la porte au sens figuré.
Oui. Il y a beaucoup de choses intéressantes, c'est ça aussi, dans ce jugement-là, qui appelle au dialogue. Le jugement invite les groupes religieux et le gouvernement à repartir à zéro et elle les invite au dialogue. Ça, cette notion-là de dialogue est importante. Hein? au Québec, le dialogue, c'est quelque chose qui a besoin d'être un petit peu alimenté, qui a besoin d'être un petit peu encouragé. Hein? Oui. Il y avait une pub de bière, je pense à ça tout d'un coup, une pub de bière dans les années 70, hein, qui disait « On est 6 millions, il faut se parler. Hein? »
C'est juste,
si personne ne se parle, si chacun se cantonne dans ses appartements, dans ses quartiers, que chaque communauté fait sa petite affaire, puis que le gouvernement décrète sans consulter, on se demande si ça mène à quelque chose. Hein. Le gouvernement Legault, qui avait déjà même fait l'image parlant de sa gouvernance en temps de pandémie, hein, on construit l'avion pendant qu'on vole.
La juge Chantal Massé, fait référence à cette image de l'avion qu'on construit alors qu'il vole. Oui, tout à fait.
Elle dit, si on construit l'avion pendant qu'on vole, il faut aussi être en mesure de faire preuve, dit-elle, faire preuve de souplesse et quand il le faut, faire preuve de fermeté, même si ça représente un défi, puis qu'il n'y a rien d'évident dans ça. Alors, le Conseil des Juifs Hassidiques du Québec, qui est le groupe religieux qui a amené cette cause-là devant les tribunaux, répond à cet appel de la juge et l'exprime de cette manière. Elle dit, nous espérons, la communauté juive, le Conseil des Juifs Hassidiques dit, nous espérons fortement, je cite, que l'on puisse tourner la page et travailler ensemble pour combattre cette terrible maladie. Un dialogue entre les groupes religieux et le gouvernement, mais aussi un dialogue à l'intérieur ou parmi, entre les groupes religieux, pour essayer de se concerter et de...
Mais c'est pour ça qu'il y a une table interreligieuse de concertation du Québec, non?
Avec Monseigneur Pierre Murray qui dirige cette table-là, effectivement. Puis, cette table-là et Monseigneur Murray lui-même qui est en conversation avec Horacio Arruda, qui est directeur de l'Institut national de la santé publique du Québec. Alors, on est en dialogue, on se parle, on s'écrit. Il y a même une partie de cette correspondance-là qui a été citée parce que la correspondance, elle a été rendue publique d'une certaine manière. Puis, cette correspondance-là est évoquée par la juge Massé et elle cite des extraits. Et ça montre que, il y a un dialogue qui est là. Heureusement, on n'est pas chacun dans son silo. Et c'est ça qui est, un des points importants à retenir de cette cause-là. Ça montre qu'il y a des groupes qui se parlent, il y a des gens qui se parlent. Puis, on a mis sur pied une certaine plateforme de cette table interreligieuse-là, émise par Mgr Murray. Et cette table-là, il y a des leaders chrétiens, des leaders des communautés juives, des leaders des communautés musulmanes qui font partie de cette table-là. Alors, c'est important de le mentionner.
Serge Cazelet, si on regarde du côté des... Si on sort de la communauté juive orthodoxe d'Outremont, si on va en Israël, ce qui est la plus grande communauté, je crois qu'ils sont 15% de la population du pays, enfin c'est un fort pourcentage. Et là, les choses sont peut-être déjà beaucoup moins dialoguantes qu'ici, si j'ose dire. Et cette question-là de respect ou non des mesures sanitaires dépasse la question des juifs orthodoxes. Je veux dire, il y a aussi des évangéliques aux États-Unis qui enfreinent les règlements. Si on quitte Outremont, là, on n'est pas unique au monde. Enfin, on dialogue davantage qu'ailleurs, en tout cas.
Exactement. Alors, les médias internationaux ont beaucoup fait écho à un problème important qui est au sein même du pays d'Israël. Notamment, j'ai des statistiques là, qui viennent du Times of Israel. Alors, on évoque beaucoup, on met, je dirais, dans l'actualité, la communauté Haredim, qui est une communauté ultra-orthodoxe qui adhère à une vision et à une pratique stricte et radicale de la Halakha. Alors, je vous explique ce qu'est la Halakha. La Halakha, c'est l'ensemble des prescriptions et des traditions, autant qui font partie de la Torah écrite, donc de la Bible, que de la Torah orale, donc essentiellement le Talmud. Alors, cette communauté-là, qui adhère à une vision stricte et radicale des prescriptions de la Halakha, ben, ils veulent se mettre un petit peu au banc de l'État d'Israël. Certains vont même jusqu'à dire, parlant de ces communautés-là, ben, ce sont des micro-États à l'intérieur de l'État. Oui. On voit la même chose avec les communautés évangéliques aux États-Unis. Hein. Donc, des communautés qui veulent vivre selon leurs propres règles, qui sont à l'intérieur d'un État, mais qui font fi des lois de l'État et qui ont leurs propres lois, leurs propres pratiques. Alors, il apparaît que c'est la raison pour laquelle les médias internationaux ont mis de l'avant ou ont mis sur la sellette cette communauté-là. Mais il apparaît que le taux de transmission du COVID-19 soit supérieur au sein de la communauté Haredim que dans tout le reste de la population d'Israël. Et les statistiques qui ont été publiées par le Times of Israel le 1er février dernier sont assez préoccupantes. On dit que dans l'ensemble du pays, dans l'ensemble de l'État d'Israël, un patient sur quatre qui est atteint de la COVID-19 fait partie de la communauté Haredim. On dit qu'il y a 20% des membres de cette communauté-là qui ont été testés positifs, alors que le taux total dans le reste de la population est de 9,8%. Alors, c'est pour ça que c'est quelque chose de préoccupant. Puis, dialoguer est important parce que si une communauté à l'intérieur d'un État décide de faire à sa tête, on voit un exemple de ce qui peut se produire. Alors, c'est pour ça qu'il faut être heureux qu'au Québec, on se parle, on a décidé de se parler. Mais il faut noter aussi qu'au Québec, on ne publie pas de statistiques aussi détaillées sur le site web de l'Institut national de la santé publique, parce que je pense que ce serait impensable.
Il y a Serge Cazelet,
au profilage.
Serge Cazelet, il y a quelque chose d'intéressant, c'est que beaucoup de Haredim vont dire « Oui, mais on n'a pas le choix, il faut qu'on prie ensemble, il faut qu'on... » Il y a une mitzvah qui est un commandement, si vous voulez, il y en a 613, je pense. Il faut étudier la Torah. La connaissance est importante. Elle est presque plus importante que la vie. Alors qu'il y a une autre mitzvah qui s'appelle la Pikuach Nefesh. Il faut d'abord sauver des vies et ça a pression sur toutes les autres mitzvahs, la vie avant tout le reste. Et c'est là, il y a une pomme de discorde, il me semble.
Une pomme de discorde, par exemple, une question de comment hiérarchiser les lois ou comment instrumentaliser les lois ou comment instrumentaliser certains extraits des Écritures saintes, quelle que soit la tradition. C'est quelque chose, malheureusement, que l'on voit couramment. On va prendre un extrait puis on va mettre l'emphase là-dessus. On va citer un verset hors contexte sans tenir compte de l'ensemble, sans tenir compte de tout ce qui est dit. Hein, si on revient à notre tradition, les chrétiens, Jésus le dit souvent, il faut savoir interpréter l'Écriture et il faut savoir nuancer, être capable de faire la part des choses. Oui. Quand Jésus dit, par exemple, que le sabbat a été fait pour l'homme et non pas l'homme pour le sabbat, ben c'est une manière exactement d'exprimer ce que vous avez dit. Parce que dans nos traditions religieuses, que ce soit autant au sein du judaïsme, du christianisme ou de l'islam, se rassembler pour célébrer, se rassembler pour prier, c'est quelque chose qui est important. Hein.
C'est même obligatoire, non?
Oui, c'est obligatoire. On prie les psaumes chez les Juifs, on prie les psaumes dans la liturgie chrétienne, on se rassemble. Matthieu 18, 20, hein? Car là où deux ou trois sont rassemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. Alors, pour les chrétiens, se rassembler pour... et le rassemblement devient le lieu de la présence du Christ, oui, c'est important. Mais il y a peut-être d'autres manières de se rassembler, d'autres manières de célébrer. même si le fait de se rassembler, c'est fondamental. On le voit dans le livre des Actes, dans les directives que donne l'apôtre Paul dans ses lettres. Mm-hmm. Comment se rassembler, comment garder l'ordre lorsqu'on se rassemble pour prier, lorsqu'on se rassemble pour célébrer. Mm-hmm. Ceci étant dit, je pense à cette question-là d'aller sur la place publique, d'alerter les médias et d'aller devant les tribunaux. Puis je me demande s'il y aurait pas derrière ça, puis je vais peut-être dire quelque chose d'immense et de grossier, à une certaine forme d'exhibitionnisme.
Hein? Bon, vous diriez ça des religieux qui insistent pour prier ensemble?
Je dirais de ceux qui vont dans les médias et de ceux qui vont devant les tribunaux afin de mener un combat. Hein? Jésus, dans le sermon sur la montagne, dans Matthieu 6, hein, il dit « Lorsque vous priez, ne soyez pas comme des hypocrites qui aiment à prier debout dans les synagogues et au coin des rues pour être vus des hommes. Je vous le dis en vérité, ils reçoivent déjà leur récompense. » Il dit « Mais toi, quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme la porte et prie ton Père qui est là dans le secret. Et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. » Alors, il y a une manière de prier, puis il y a une manière, comme vous avez dit, dans les médivas juives, puis c'est la même chose au sein du christianisme. Oui, c'est important de se rassembler. C'est un commandement, c'est une obligation de se rassembler et de prier. Mais il y a moyen aussi de revenir à une certaine forme d'intériorité, de vivre sa relation avec Dieu, avec le Christ, de manifester la présence du Christ d'une autre manière que dire on va enfreindre les lois et on va se rassembler à 25, 30, 40. Actuellement, les directives du gouvernement ou les consignes sanitaires ou les règles sanitaires, appelons-les comme on veut, nous demandent de faire preuve d'une certaine modération. Là, en date d'aujourd'hui, dans les zones qu'on désigne comme étant les zones oranges, on peut se rassembler à plus que 10, on peut aller jusqu'à 25. Alors, il y a moyen. En même temps, il y a d'autres enjeux aussi autour de ça. On dit, mais comment déterminer qui seront les 25 qui se rassembleront sans
causer des problèmes? Alors, on ouvre une autre porte, si j'ose dire, sans jeu de mots. Oui, je vois bien. Mais pensez-vous. Oui Serge, allez-y. Vous voyez dans ce recours aux tribunaux, comme il y a eu récemment avec les juifs orthodoxes d'Outremont, vous pensez qu'il y a une mise en scène ou juste une façon de montrer à quel point c'est vital pour eux de se réunir?
Moi, j'ai une crainte en judiciarisant tout, en judiciarisant les demandes pour la prière. Oui. Qu'est-ce qu'on fera le jour où le législateur décidera à sa guise de changer les lois? Mm-hmm. Hein? Est-ce que fier Dieu sera désormais encadré par une loi civile? Mm-hmm. Je demeure avec un certain malaise, une certaine interrogation face à ça. Je me demande si c'est vraiment le lieu où porter tout ça, où porter nos demandes. Lorsqu'on réclame une certaine forme de liberté de culte, de liberté de pratique des religions, on évoque la Charte des droits, puis on va devant les tribunaux, alors qu'on peut très bien s'organiser d'une autre manière et faire en sorte que ce qui est, je dirais, de la sphère du politique et du judiciaire demeure dans la sphère du politique et du judiciaire, puis ce qui est dans la sphère du spirituel demeure dans la sphère du spirituel.
Je veux dire, Serge, mais dans une société laïque, ça ne peut être qu'un tribunal. Je veux dire, un tribunal civil qui règle ces questions-là. Et le cas de ce jugement de Chantal Massé, de la juge Chantal Massé, c'était une décision purement administrative. C'était pas axé sur la liberté de religion. C'est important de faire cette nuance.
On a fait la nuance, mais comme je vous dis, dans la demande, lorsque les communautés orthodoxes d'Outremont ont amené la cause devant les tribunaux, ils ont évoqué la question de la droit de la liberté de culte, ce que tout de suite la juge a mis de côté pour en venir à une décision administrative en disant que le législateur n'a pas clarifié ce qu'était un lieu de culte.
Alors, d'accord.
Moi, sur cette question-là, oui, ça va. On est d'accord. Moi, c'est sur la question de dire, j'amène devant les tribunaux la question de la liberté religieuse et la question de la prière. C'est là où moi, j'ai une certaine interrogation, puis j'ai une réserve. Je me dis, est-ce que c'est le meilleur endroit où porter ça plutôt que de dire, de s'inspirer des paroles de Jésus qui dit, La spiritualité, c'est une chose. La spiritualité, c'est entre toi et Dieu. Et oui, il y a la question du rassemblement qui est importante. Mais comme je vais citer une autre parole des Actes des Apôtres, hein, au chapitre 7, quand il dit « Le Dieu très haut n'habite pas dans ce qui est fait de main d'homme. Hein? »
Oui, mais aller dire ça à des gens qui ne sont pas chrétiens, je veux dire, ils vont vous dire « Ça, c'est ton point de vue à toi, je le respecte, mais toi, respecte mon point de vue, puis ça s'arrête là. » On n'a plus que 30 secondes, malheureusement.
Effectivement. Pour certaines religions, le lieu où on se rassemble peut faire partie de la définition ou peut faire partie des règles à suivre. Mm-hmm. Mais je me demande s'il n'y aurait pas moyen, au sein du judaïsme aussi, on a ces questions d'intériorité-là, on ces préceptes d'intériorité-là, et ce qui est de la sphère du spirituel devrait rester dans la sphère du spirituel et ce qui est dans la sphère politique et judiciaire. Faire rentrer le judiciaire au sein de nos communautés, je pense qu'il y a là peut-être un paquet de crabes à ne pas ouvrir.
Bon, alors gardons-le fermé pour l'instant. D'autres vont s'en charger de l'ouvrir. Serge Cazelet, merci infiniment. Je rappelle que vous êtes bibliste et historien des religions. Vous nous parlez de cette cause que les remportée par les Juifs racidimes de Outremont. À la semaine prochaine.
À la semaine prochaine, oui.
Allez, Serge, au revoir. À venir sur les ondes de Radio VM, les aînés connectés. On vous revient après la pause.